Amos chapitre 8, versets 11 à 12. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Bonjour à tous frères et sœurs, bon sabbat, que Dieu vous bénisse et nous bénisse dans cette journée et dans cette étude. Une famine dans le pays, dit l'Éternel. C'est le sujet de notre méditation aujourd'hui que j'ai intitulé « Une famine de la parole de Dieu ». C'est directement en lien avec ces déclarations de notre lecture biblique dans Amos chapitre 8, versets 11 et 12. Et c'est une méditation qui est en lien avec un constat que je fais et que vous allez pouvoir faire aujourd'hui avec moi, que nous allons pouvoir faire ensemble alors que nous contemplons, que nous réfléchissons à la réalité dans laquelle nous vivons actuellement nous-mêmes. Il y a une famine dans le pays, sur la terre, plus grande que jamais. Il ne manque pas de Bible, mais il manque cruellement d'huile. D'huile. C'est ce que nous aimerions contempler aujourd'hui. Et pour cela, nous nous tournons une fois de plus vers ces paroles de notre lecture biblique d'Amos, chapitre 8, versets 11 à 12. Amos chapitre 8, verset 11, je lis. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Donc la parole de Dieu nous annonce ici une période dans l'histoire de la terre qui est caractérisée par un besoin accru de la parole de Dieu qui ne peut être satisfait. Et vous voyez, il y a une famine, un désir profond, c'est-à-dire une soif d'entendre les paroles de Dieu. Et donc, suite à cette soif, les gens vont d'une mer à l'autre pour chercher la parole de Dieu et ils ne la trouvent pas. Et jamais dans l'histoire de la terre, cela n'a été plus applicable qu'aujourd'hui, cette image qui jusqu'alors aurait semblé ne pas être une image d'errer d'une mer à l'autre et du nord au levant, c'est-à-dire du nord au midi. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui errer d'une mer à l'autre et du nord au levant, aller çà et là pour chercher la parole de l'Éternel? N'est-ce pas ce que nous pouvons faire aujourd'hui à travers la technologie, à travers les réseaux sociaux? Nous voguons d'une mer à l'autre par le moyen de quelques clics, de quelques déplacements du doigt. Et dans une telle période, de telles connaissances et d'avancées technologiques, malgré cela, ils erreront d'une mer à l'autre. Malgré toutes les avancées technologiques de ces derniers siècles, ces deux derniers siècles, la parole de Dieu, prêchée avec dévotion, avec sincérité et fidélité et consécration, est devenue extrêmement rare. Les réseaux sociaux, avec tout leur contenu religieux, ne font qu'accentuer cette réalité amère de la famine spirituelle qui sévit à travers le monde. L'abondance de tous ces contenus religieux ne fait qu'accentuer la réalité cruelle de cette famine qui sévit pour entendre les vraies paroles, paroles vivantes de Dieu à son peuple. Malgré la quantité ineffable et incommensurable de contenu religieux, chrétien et même adventiste, j'ai faim, nous avons faim, il n'y a rien, c'est du grand vide, il y a une famine. Et pourtant, tant de personnes ont leur Bible, tant de personnes parlent de Dieu, tant de personnes même parlent du message des trois anges, tant de personnes parlent du quatrième ange, tant de personnes font ci et font ça, et on a encore faim, on a encore soif, rien n'est dit, rien n'est fait, ce n'est que du grand vide. Et il y a, dit l'Éternel, une famine. Vous allez par-ci, par-là, de gauche à droite, sur YouTube et Facebook, et par où que vous pensiez pouvoir trouver quelque contenu enrichissant. Et tout ce que vous avez, c'est la soif et la faim. Vous n'avez rien, on ne vous donne rien de satisfaisant. Vanité, des vanités, dit l'Ecclésiaste, pour ces derniers jours. Connaissez-vous, comprenez-vous, avez-vous fait cette expérience de cette famine? Nous voulons lire à travers les déclarations de l'Esprit de prophétie qu'il s'agit en effet bel et bien d'une réalité qui a commencé, je devrais dire qui avait commencé du temps de Sir White. Je lis ici dans le livre Parabole de Jésus, à la page 192 et au paragraphe 4, la citation suivante qui nous dit « Le monde périt faute de l'Évangile. Une famine de la parole de Dieu sévit. » Sévit, elle dit. Elle ne dit pas sévira, elle dit sévit. Une famine de la parole de Dieu sévit. Ils sont rares, en effet, ceux qui prêchent la parole sans y mêler des traditions humaines. Bien qu'ils aient la Bible entre leurs mains, les hommes ne reçoivent pas la bénédiction que Dieu y a placée à leur intention. Le Seigneur appelle ses serviteurs à porter son message au peuple. Il faut que la parole de la vie éternelle soit transmise à ceux qui périssent dans leurs péchés. Parabole de Jésus, page 192, paragraphe 4. Le monde périt. Il y a une famine. Faute de quoi? Faute de l'Évangile. Une famine de la parole de Dieu sévit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont rares ceux qui prêchent la parole sans y mêler des traditions humaines. sans y mêler des interprétations humaines. Ils sont rares. Et parce qu'ils sont si rares, cela équivaut à une famine d'entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est lue, elle est prêchée, mais parce que elle est mêlée à des traditions humaines, il n'y a plus rien de consistant qui soit vraiment donné comme une nourriture pour nourrir ceux qui désirent être nourris de Dieu. Vous voyez ? La parole de Dieu est lue, prêchée, citée, copiée, collée, mais il y a quand même une famine. Vous comprenez ? Donc cela conditionne notre esprit pour arriver à comprendre que juste dire la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, en effet, si je ne fais que la dire, que la copier, que la répéter, je vais contribuer à la famine qui existait depuis le temps de Ellen G. White. Plus d'un siècle déjà que cette famine existe et accroît et s'accentue avec chaque addition qu'on y met d'une simple répétition sans la vie de Dieu dans la parole et la prédication. Vous voyez, nous contribuons à la famine en ne faisant que répéter, copier-coller, sans une réelle contribution de notre propre vie sur l'autel du sacrifice de la croix. Donc, à moins que nous venions à Dieu avec le sacrifice de nous-mêmes, en offrant de volontaire de tout ce qu'il y a de nous, tout ce que nous pouvons donner de nous, nos cœurs, nos affections, nos plans, nos ambitions, à moins que nous fassions cela dans la présentation de la parole de Dieu, notre présentation de la parole de Dieu ne va que contribuer et accentuer la famine de la parole de Dieu qui sévit sur la terre. Je lis la déclaration suivante qui développe ce qui était déclaré au sujet de ce manque de l'évangile qui constitue cette famine des derniers jours. Dans le livre « Instructions pour un service chrétien effectif » à la page 186 et au paragraphe 4, il est écrit cette brève citation suivante. « Nous vivons, disait Sir White, nous vivons à une époque où une grande œuvre doit s'accomplir. Il y a dans le pays une famine d'un il y a dans le pays une famine du pur évangile. Et le pain de vie doit être apporté aux âmes affamées. Dites-moi, quelle est cette famine qu'il y a dans le pays, déjà depuis le temps de Sir White, quand cette déclaration a été écrite en 1902? Qu'est-ce qui constitue cette famine qui existe dans le pays, à savoir dans le monde entier, parce que c'est vraiment le sens profond de l'expression? C'est une famine du pur évangile. Vous voyez? Ce n'est pas un manque de la Bible, ce n'est pas un manque de l'évangile, c'est un manque de la parole vivante et c'est un manque du pur évangile. Vous voyez? L'évangile ne fait pas défaut, pas du moins celui qui est mêlé aux interprétations et aux traditions humaines. Non, celui-là, il regorge, il est partout. On ne fait qu'entendre cela. Mais le pur évangile, celui-ci fait cruellement défaut et c'est cela qui constitue la famine de la parole de Dieu et pourquoi les âmes sont si affamés, si assoiffés et pourtant si systématiquement nourris de rien du tout. La famine. La famine, et pourtant tant de personnes qui vont à l'église et tant de personnes qui prêchent sans arrêt, sans arrêt. Et pourtant, il n'y a rien. Tu ne m'as rien donné. Je suis autant affamé que quand je suis arrivé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne veux pas vraiment me sacrifier, mais je veux continuer de prêcher. Je veux continuer d'enseigner, mais pas à mes propres dépens. Vous comprenez? Je veux continuer à quoi? À préserver la forme sans la force de la piété, sans la puissance de la piété. Lisez avec moi dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Qu'est-ce qui caractérise cette société, cette génération dans laquelle nous vivons, qui fait que cette famine soit sans cesse, systématiquement accentuée? 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Non, d'ailleurs, nous commençons la logique dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, où il est écrit, l'apôtre Paul nous dit, « L'Esprit dit expressément que, dans les derniers jours, quelques-uns se détourneront de la foi, à savoir du pur évangile, parce que c'était cela la foi que Paul prêchait. Quelques-uns, en ces derniers temps, se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et maintenant, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, nous lisons « Or sache, » il continue dans cette même lancée, « Or sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, ou comme c'est marqué autre part, des temps fâcheux. » Et qu'est-ce qui rendra ces temps si fâcheux et difficiles? « Car les hommes seront, nous faisons la liste, épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté ou les plaisirs plus que Dieu. » Et là, verset 5, nous aide à comprendre quelle est réellement l'identité de ces personnes-là qui manifestent toutes les caractéristiques de la chair de péché. Verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là qui contribuent à la famine. » Éloigne-toi aussi de ces gens-là qui, quoi, ont l'apparence de la piété, mais en ont renié la force, veulent garder la forme, mais sans la puissance, veulent prêcher l'évangile, mais ne pas se sacrifier eux-mêmes. Vous voyez? Vous voyez d'où vient la famine? Et plus, ou je devrais dire, et moins les gens veulent porter leur croix, être crucifié avec Christ, et plus la famine augmente. Plus il y a de formes, de cérémonies, plus il y a l'apparence de la piété, mais dénuée de sa force, dénuée de la puissance et de la force de la piété. Et quelle est la force de la piété? C'est la puissance de Dieu dans l'Évangile qui ne peut être manifestée que lorsque nous sommes morts avec Christ. Et parce que les hommes, généralement parlant, et nous aussi, si nous ne faisons pas attention, sommes naturellement enclins à ne pas vouloir mourir avec Christ, eh bien tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons ne fera que constituer, augmenter, accentuer la famine de la parole de Dieu. J'aimerais lire Encore une déclaration pour élargir la précédente, cette fois-ci dans Événements des derniers jours, à la page 178 et au paragraphe 3. Il est écrit ceci. Maintenant, vous allez voir vraiment comment l'esprit de prophétie exprime un peu plus clairement le lien entre la famine et la parole de Dieu. Et ce que nous devrions faire avec et en relation, dans notre relation avec la parole de Dieu. Je lis Événements des derniers jours, 178, paragraphe 3. Ceux qui aujourd'hui n'apprécient pas, n'étudient pas et ne donnent pas toute sa valeur à la parole de Dieu présentée par ses serviteurs auront des raisons de pleurer amèrement plus tard. J'ai vu que le Seigneur, pendant le jugement, à la fin des temps, parcourra la terre. De terribles plaies commenceront à s'abattre sur le monde. Alors, dit-elle, ceux qui ont méprisé la parole de Dieu, ceux qui l'ont prise à la légère, erreront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Le pays est frappé d'une famine d'entendre la parole. Vous voyez comment elle a fait le lien entre notre négligence d'apprécier et d'étudier et de donner toute sa valeur à la parole de Dieu. Elle a fait le lien entre cela et la famine à venir qui déjà sévit sur la terre. Parce qu'elle disait, le Seigneur, pendant le jugement, à la fin des temps, parcourra la terre, de terribles plaies commenceront à s'abattre sur le monde, alors ceux qui ont méprisé la parole de Dieu, ceux qui l'ont prise à la légère, erreront d'une mer à l'autre. Donc, notre négligence d'apprécier aujourd'hui à sa juste valeur la parole de Dieu qui nous est disponible, de l'étudier dans la prière, de la sonder, d'en tirer tous les avantages que nous pouvons y puiser, c'est cela qui constituera la famine qui aura lieu pendant le temps des plaies. Mais rappelez-vous, elle disait déjà, en son temps, le pays est frappé d'une famine d'entendre la parole. Mais, quoi que ce soit déjà la réalité, ce sera le point culminant de cet accomplissement total de cette prophétie de Amos chapitre 8, versets 11 à 12, n'aura lieu que pendant le temps de détresse de Jacob, le temps des sept dernières plaies. À quel moment il y aura une famine complète? Là, aujourd'hui, déjà du temps de ce roi était aujourd'hui, il existe une famine cruelle et élargie, mais la famine complète sera lorsque la fin du temps de grâce aura sonné et qu'il n'y aura plus du tout d'impulsion par l'esprit de prêcher la parole pour sauver. Parce que à cette heure-là, chaque âme aura pris sa décision, soit pour être sanctifié davantage, soit pour pécher davantage. Comme c'est marqué dans Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui soit saint se sanctifie davantage et que celui qui est souillé se souille davantage. Donc à ce moment-là, le Saint-Esprit est retiré entièrement de la terre. Mais ils restent avec les croyants et eux doivent vivre sans intercesseur devant Dieu. Ils ont le Saint-Esprit. Par contre, le Saint-Esprit a été retiré de tous les autres et donc il y a une famine totale. Alors il y aura une famine totale. Aujourd'hui, il y a une famine importante, mais partielle, parce que l'Esprit encore lutte avec les hommes. de la même manière qu'il luttait avec les hommes du temps de Noé. Qu'est-ce qui est marqué dans Genèse chapitre 6, brièvement? Il y a un terme important qui nous aide à comprendre cela dans Genèse chapitre 6, qui nous donne de comprendre pourquoi nous pouvons encore nous réclamer de tous les privilèges qui viennent à nous de la part de Dieu par le moyen de sa parole. Genèse chapitre 6, verset 3, « Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. » Et lorsque l'esprit cessa de contester avec les antédiluviens, c'est alors que l'arche fut fermée, la porte de l'arche fut fermée et que les antédiluviens furent abandonnés à leur sort. Alors l'esprit se retira, pour ainsi dire, de la terre. Et cela va arriver de nouveau et nous voulons contempler la valeur de nos privilèges pour nous en servir, pour les mettre à profit et ne pas nous trouver du mauvais côté de cette famine-là. J'aimerais lire les déclarations suivantes de Ellett J. Wagoner dans La Present Truth UK du 27 juin 1895 où il nous dit ceci. Après qu'il ait cité Amos chapitre 8 versets 11 et 12, il dit « Rien n'indique que cette prophétie se soit jamais accomplie, mais elle s'accomplira aussi sûrement qu'il y a un Dieu dans les cieux, dont la parole est la vérité. Elle s'accomplira, dit-il, même à l'époque où vivent aujourd'hui les hommes. » Il disait en 1895. En général, les hommes ne se sont pas beaucoup souciés de la parole de Dieu. S'ils l'avaient fait, s'ils s'étaient souciés de la parole de Dieu, l'histoire du monde ne serait pas un tel témoignage d'apostasie et de péché continu. Ils ne l'ont jamais appréciée au point de la rechercher d'une mère à l'autre. Mais un temps vient où ils l'estimeront assez pour la rechercher de loin et de près, quoique sans succès. Un temps où ils en ressentiront le manque aussi vivement qu'ils ressentent une famine qui les prive de la nourriture nécessaire à leur corps. Ce sera une époque exceptionnelle, car, d'ordinaire, les hommes se passeront de la parole de Dieu jusqu'à la famine spirituelle sans en éprouver la moindre inquiétude. Les événements seront détournés de leur cours normal. Ézéchiel dit de point, « La destruction vient et ils chercheront la paix, mais il n'y en aura point. Malheur viendra sur malheur et il y aura rumeur sur rumeur. Ils demanderont la vision au prophète, mais la loi périra chez le sacrificateur et le conseil chez les anciens. » Ézéchiel, chapitre 7, versets 25 à 26. C'est à ce moment-là que les hommes apprennent à apprécier la parole du Seigneur. Lorsque le roi Saül était dans une grande détresse à cause de la ruine qui le menaçait, lui et son royaume, de la part de l'armée des Philistins, il aurait donné cher dans sa perplexité et son angoisse pour obtenir une parole du Seigneur. Mais il s'était tellement séparé de Dieu qu'il ne lui restait rien d'autre que les jugements divins. Et il cite 1 Samuel chapitre 28 verset 6. Et Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül fit alors l'expérience de ce que le prophète a prédit pour la terre en général, une famine de la parole de Dieu. Saül fit cette expérience. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement rejeté la parole de Dieu, il avait tellement, je le lis ici, il s'était tellement séparé de Dieu que lorsqu'il demandait la parole de Dieu, il ne lui restait rien d'autre que les jugements divins. Saül fit alors l'expérience de ce que le prophète a prédit pour la terre en général, une famine de la parole de Dieu. Dans des circonstances de détresse générale et de perplexité telles que le monde n'en a jamais connues, les hommes éprouveront les mêmes sentiments que l'ancien roi d'Israël. Dans la prospérité, les hommes oublient Dieu. Mais lorsque ces jugements s'abattent sur eux, lorsqu'ils prennent conscience de leur propre faiblesse et de la folie de ce qu'ils considéraient comme de la sagesse, ils se tournent vers celui qu'ils reconnaissent comme la seule source d'aide. Et ce temps approche. La parole du Seigneur l'a annoncé. Les prophètes en ont parlé. Et le Sauveur l'a prédit lorsqu'il s'adressait à ses disciples. Ensuite, je saute quelques paragraphes et je lis la dernière partie de cet article. Déjà, les jugements de Dieu frappent le pays. Et les peuples sont dans la consternation et ne sachant que devenir. La terre se remplit de la méchanceté annoncée pour les derniers jours, de Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Il y a une apostasie vis-à-vis de Dieu, comme ce fut le cas pour Saül. Vous voyez ? Il y a une apostasie vis-à-vis de Dieu, comme ce fut le cas pour Saül. Vous voyez le parallèle entre le monde en général et l'expérience personnelle du roi Saül. Saül avait la parole du Seigneur, mais il ne l'écoutait pas. Et Samuel lui dit, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices ?» comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel. Voici, obéir vaut mieux que sacrifice, et être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. 1 Samuel 15, verset 22. Aujourd'hui, les hommes ont la parole de Dieu, mais elle est négligée et mise de côté au profit de dogmes et de traditions. Il y a beaucoup de formes et de cérémonies, d'holocaustes et de sacrifices, mais l'obéissance fait défaut parce que la parole de Dieu est peu lue et encore moins comprise. L'expérience de Saül sera répétée. De même que son apostasie s'est terminée dans la détresse et la perplexité, il en sera de même maintenant dans un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Tout comme l'esprit de Saül était dans les ténèbres couvrent aujourd'hui la terre et l'obscurité les peuples. Ésaïe, chapitre 60, verset 2. Tout comme il, Saül, cherchait en vain une parole du Seigneur, ainsi aussi les hommes chercheront-ils dans le temps à venir. Et comme il, Saül, obtint finalement, par l'intermédiaire de la sorcière d'Endor, ce qu'il croyait être la parole du Seigneur, de même maintenant, lors de la famine à venir, les hommes seront poussés, comme Saül, à consulter les morts, et par cette apparence communication avec eux, ils recevront ce qu'ils accepteront comme la lumière et la vérité. Maintenant, il conclut. Si nous acceptons maintenant de recevoir la parole du Seigneur, si nous la cachons et l'accumulons dans nos cœurs, nous échapperons à la future famine. Mais nous devons marcher dans la lumière tant que nous l'avons. Autrement, la lumière qui est en nous deviendra ténèbres. En refusant de laisser la parole de Dieu façonner et contrôler notre vie, nous faisons comme Saül et nous attirons sur nous les ténèbres qui l'ont frappé. Car la rébellion est autant que le péché de divination et la résistance autant que les idoles et les théraphimes. La lumière de la parole de Dieu nous est donnée pour que nous y marchions et nous non pour que nous restions immobiles. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu avec la foi en son pouvoir de nous soutenir. C'est alors que notre chemin sera comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Voyez un peu. Il est allé dans tous les détails et je ne les ai pas épargnés. Je pense qu'ils sont de grande valeur pour nous. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui caractérise vraiment, quel est le fond du problème de cette famine. Je vais juste souligner quelques aspects de ce qu'il mettait en avant ici. J'y reviens tout de suite. Il dit, si nous acceptons maintenant de recevoir la parole du Seigneur, si nous la cachons, la parole, et si nous l'accumulons dans nos cœurs, en la mémorisant, en contemplant sur elle, qu'est-ce qui nous est assuré? Nous échapperons à la future famine. Pourquoi? Parce que nous aurons à l'intérieur de nous ce que Jésus a dit que la femme samaritaine aurait si elle buvait de l'eau de vie qu'il avait à lui donner. Vous vous rappellerez, il disait, j'ai une eau que si tu en bois, tu n'auras jamais soif, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme samaritaine avait dit, donne-moi toujours de cette eau. Et donc il continua à discuter. Et il disait, celui qui a cette eau, qui boit cette eau spirituelle, cette eau deviendra en lui comme une source jaillissant pour la vie éternelle. C'est écrit aussi dans une autre citation que je n'aurai pas eu le temps de lire, mais que je mettrai à votre disposition. Et donc, si nous recevons la parole, nous acceptons maintenant de recevoir la parole du Seigneur, si nous la cachons et l'accumulons dans nos cœurs, c'est-à-dire que nous la méditons et que nous la laissons faire partie de nous, alors nous échapperons à la future famine. Vous voyez? Il disait aussi, en refusant de laisser la parole de Dieu façonner et contrôler notre vie, nous faisons comme Saül. Qu'est-ce que faisait Saül? Qui nous a donné comme un avertissement pour nous, afin d'éviter cette famine, à la fois aujourd'hui et plus tard, lorsqu'elle deviendra un fléau de terrible condamnation. Il avait refusé de laisser la parole de Dieu façonner et contrôler sa vie. Vous comprenez? Il avait gardé les apparences, notamment pour plaire au peuple, mais il n'avait pas laissé la parole de Dieu façonner sa vie pour le mener à une réforme personnelle, une repentance. Ce n'était pas comme cela qu'il qu'il entrevoyait sa relation avec Dieu et sa parole. Pour Saül, la parole, c'était juste quelque chose en surface. Et donc, quand il demanda la parole de Dieu, Dieu ne pouvait pas lui parler parce que la parole de Dieu, c'est censé être une relation. Et donc, c'est pour ça qu'il eut recours à la sorcière d'Endor, parce que Dieu ne lui parlait plus, parce que Saül ne recevait pas la parole pour la laisser le façonner et contrôler sa vie. Vous vous rappellerez de toute cette amertume, cette haine qu'il avait envers David. Ça, ce ne sont que des exemples pour nous montrer que ce qui peut nous arriver si nous refusons de laisser la parole de Dieu façonner et contrôler notre vie. La parole de Dieu vient à nous à la fois la Bible et l'esprit de prophétie. Et Dieu nous dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les choses bien, parfaitement. Et nous pouvons dire, ça je veux bien, ça je veux bien. Et après, la parole de Dieu vient à nous et nous sommes confrontés à la nécessité de prendre notre croix. Parce que c'est impossible pour nous, et nous sommes naturellement enclins à aller complètement à l'opposé de ces instructions divines qui nous sont présentées. Et donc, pour accepter de laisser la parole de Dieu façonner et contrôler notre vie et la réformer selon la pure et sainte et parfaite volonté de Dieu, il nous faut mourir. Mais l'homme naturel et charnel ne veut pas mourir. Et c'est cela qui provoque ce géant dilemme qui fait que ensuite, plus tard, les gens, ils éprouvent une famine. Pourquoi? Parce que plus tôt, ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont accepté de croire en général à la parole, mais refusé de recevoir la parole pour se réformer selon cette parole. Et c'est ça qui, au fil du temps, crée la famine. Vous voyez, dans l'expérience de Saül, plus tard, eh bien, il en vint un moment où il y avait une famine dans sa propre vie. Il demandait la parole de Dieu et Dieu ne lui répondait ni par les prophètes, ni par l'urim. Vous voyez, ni par les songes, ni par l'urim, ni par le prophète. Pourquoi? Parce que bien avant, au fil des années, Saül avait pris l'habitude, formé l'habitude de ne pas recevoir la parole dans son cœur, juste de recevoir en surface. Et vous vous souvenez, quand il avait vu Samuel qui était venu à lui, je crois que c'était à Gilgal, il a dit « Oh, serviteur du Seigneur, que tout va bien, ça va, tranquille. » Vous voyez ? Alors que au fond, il n'était pas dans une juste relation avec Dieu et sa parole, parce que il avait essayer plus ou moins de rester en harmonie avec Dieu en obéissant à la parole, mais en réalité, il était désobéissant à la parole, mais il voulait garder les formes. Et le prophète est venu à lui, « Tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel. Tu as désobéi. Tu n'es pas dans une vraie relation avec Dieu et la parole. Tu ne laisses pas la parole te réformer, te mener à la repentance. C'est toute une question de forme. Tu veux juste que moi, je sois là et que j'approuve tout ce que tu fais pour que le peuple, il pense que Dieu est avec toi. » Vous voyez? C'est ça. Lorsque nous nous attachons juste à ce que Dieu dit dans la forme, bien nous répétons cette activité de toutes les églises déchues et de la relation qu'elles ont pendant plusieurs siècles maintenant chercher à maintenir avec Dieu et avec sa parole, comme c'est marqué ici dans Ésaïe chapitre 4 verset 1. Je vais le lire et ensuite je vais vous dire comment c'est écrit précisément dans la Bible King James. Ésaïe chapitre 4 verset 1, il est écrit: « En ce jour-là, sept femmes saisiront un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos vêtements seulement que nous portions ton nom afin que tu fasses cesser notre opprobre. » Je le lis tel que c'est marqué dans la Bible King James. Ici, dans la mienne, la Bible Austerval, il est marqué « Seulement que nous portions ton nom fait cesser notre opprobre. » Dans la Bible King James, il est marqué « Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos vêtements seulement que nous portions ton nom afin que tu fasses cesser notre opprobre. » Donc, la Bible nous présente une femme comme un symbole d'une église. Donc vous avez ici sept femmes, à savoir une multitude d'églises, parce que sept, c'est un symbole de d'une totalité, d'une complétude. Vous avez ici toutes les femmes, toutes les églises dans le monde qui viennent, qui se saisissent d'un seul homme. Hein, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est l'homme Jésus-Christ. Elles se saisissent de ce seul homme-là et elles disent, alors, bon, voilà, elles disent leurs termes. Vous voyez le début de la famine ici. Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos vêtements, seulement laisse-nous porter ton nom pour que tu fasses cesser notre opprobre. Donc, nous voulons être appelés chrétiens, nous voulons nous revêtir du nom de Jésus-Christ, nous voulons nous réclamer de ses promesses, seulement nous disons cette condition à Dieu, nous allons manger notre pain, c'est-à-dire notre nourriture spirituelle, et nous allons nous revêtir de nos vêtements, c'est-à-dire notre propre justice. Nous ne sommes pas ici pour recevoir ta justice, la puissance de Dieu dans l'évangile, ce n'est pas ça l'objectif. Nous voulons juste porter ton nom pour que tu fasses cesser notre opprobre, que l'on ne soit pas des pécheurs vils, qu'on soit considérés comme des hommes réformés, des hommes repentis, des hommes convertis, et c'est tout. Vous voyez? Et parce que les personnes disent cela, les églises disent cela, elles se retrouvent ensuite dans ce terrible dilemme cruel d'une famine qu'ils ont provoquée parce qu'ils ont demandé à Dieu, voilà, on veut juste que tu nous donnes ton nom, comme ça on se réclame de ta parole, on prêche ta parole tous les samedis et dimanches. Samedi ou dimanche, peu importe, c'est le même problème chez les adventistes ou les observateurs du dimanche. Et juste, laisse-nous ton nom, on se réclame du nom de Christ, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous croyons à la Bible, pour que tu fasses cesser notre opprobre, notre honte, qu'on soit plus des mondains perdus et déchus. Et par contre, on va manger notre pain. Et ensuite, plus tard, eh bien, on se plaint parce que on est dans la famine et que les gens ils prient les yeux ouverts et debout sur leurs pieds et on se demande d'où vient le problème. Vous comprenez? Le problème, il était plus loin. Le problème, il était plus tôt. Le problème, c'est que nous ne voulons pas mourir. Et donc, nous avons cette illustration, cette leçon à travers l'expérience de Saül qui nous montre ce que nous pouvons faire pour éviter d'être frappé des ténèbres dont il a été frappé. Parce qu'il est marqué ici, en refusant de laisser la parole de Dieu façonner et contrôler notre vie, nous faisons comme Saül et nous attirons sur nous les ténèbres qui l'ont frappé, car il cite 1 Samuel 4, 15 verset 23, car la rébellion est autant que le péché de divination et la résistance autant que les idoles et les téraphimes. La lumière de la parole de Dieu nous est donnée pour que nous y marchions, non pour que nous restions immobiles. Donc si nous voulons être nourris, il faut que nous marchions dans la lumière qui nous est donnée, dans cette nourriture spirituelle, dans ce pain spirituel. Il nous faut le manger en mourant, non en restant immobile. Parce que si nous recevons la lumière pour rester immobile, comme Saül le fit, d'une manière ou d'une autre, eh bien, la lumière va se changer en ténèbres. Parce que si nous ne recevons pas la parole pour nous réformer par elle, nous allons inévitablement être rebelles à elle. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas cette ligne du milieu, cette zone de neutralité, cela n'existe pas, il n'y a aucune zone de neutralité. La parole de Dieu, il nous dit, je mets devant toi deux choses, la vie ou la mort, le bien ou le mal, choisis la vie afin que tu vives, choisis le bien afin que tu vives. Donc il n'y a pas, Dieu il ne dit pas, je vais mettre devant toi le chemin du milieu, la neutralité, comme ça tu n'as aucune décision à prendre et tu peux juste vivre dans la lumière et ne rien faire. Non, parce que c'est précisément ça que le Laodicéen fait et que Jésus dit que s'il continue de le faire, c'est pour cela qu'il va le vomir de sa bouche. Parce que tu dis, je me suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, j'ai tout appris, vraiment là, j'ai l'apparence de la piété, juste j'ai remis une toute petite chose, c'est j'ai abandonné la force et la puissance de la piété. Et l'évangile, nous lisons dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17, je crois, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, parce que dans l'évangile, la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Et donc, Si nous abandonnons la puissance, la force de la piété, nous abandonnons l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient à ça. Parce que dedans, la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Mais si nous rejetons, nous abandonnons la puissance de Dieu, parce que la parole de Dieu est un peu trop réformatrice à notre goût et ça nous demande de mourir à chaque fois, eh bien, qu'est-ce qui nous arrive? Nous n'avons plus d'évangile. Et donc la famine de la parole de Dieu, c'est une famine, comme nous disions, du pur évangile, comme l'esprit de prophétie nous disait. Cela nous mène donc à cette déclaration. Avec cela, je pense que nous allons pouvoir conclure, qui se trouve dans par le frère Alonzo Trevor Jones dans la Advent Review and Sabbath Herald du 14 août 1900, où il dit ceci tout particulièrement par rapport à cette déclaration selon laquelle il y a une famine dans le pays du pur évangile. Je le relis brièvement, ce que nous lisions juste avant, plutôt bien avant, dans Parabole de Jésus à la page 192, c'était la première citation. Non, celle-ci disait « Le monde périt faute de l'évangile, une famine de la parole de Dieu sévit. » Et ensuite, l'autre déclaration nous disait « Instruction pour un service chrétien effectif, 186, paragraphe 4. » Il y a dans le pays une famine du pur évangile et le pain de vie doit être apporté aux âmes affamées. Une famine du pur évangile. Et donc, quel est ce pur évangile auquel j'ai fait brièvement allusion ici? Quel est ce pur évangile qui dont le manque dans le monde constitue cette famine qui déjà existait au début du XXe siècle et qui aujourd'hui s'est grandement accentué? Je le lis maintenant dans cette fameuse déclaration du frère A.T. Jones. C'est plusieurs paragraphes. Voilà ce qui est écrit. Prêtez attention ici parce qu'il va vraiment aller dans les détails du cœur du pur évangile, faute duquel le monde se meurt. Et nous-mêmes, nous mourrons parce que nous sommes si affamés et que nous avons peut-être été si peu enclins à prendre notre croix et ainsi à faire l'expérience de la force de la piété. Lisez avec moi. Il dit, qu'est-ce que l'évangile de Christ? C'est le salut gratuit de Dieu pour chaque âme dans le monde entier. C'est le pouvoir de Dieu par lequel il relève un homme de la mort dans les fautes et dans les péchés, le rend participant de ce salut, le maintient dans la voie de ce salut, et accomplit en lui la justice de Dieu. C'est cela l'évangile. Je relis, parce qu'il met en avant plusieurs points ici. Essayez de saisir, pour que nous arrivions à discerner la valeur pratique, réelle de cela. Qu'est-ce que l'évangile? C'est le pouvoir ou la puissance de Dieu par laquelle il relève un homme de la mort dans les fautes et dans les péchés, le rend participant de ce salut, le maintient dans la voie de ce salut et accomplit en lui la justice de Dieu. Tout cela, c'est l'évangile de Christ. Tout cela, toute cette activité qu'il vient de décrire ici, c'est l'évangile de Christ. Toute cette activité est comprise dans l'évangile de Christ. Donc l'évangile de Christ fait allusion à toutes ces choses-là et comprend toutes celles-ci. Je continue. C'est ce que le peuple de Galatie avait reçu en recevant l'évangile. Au sujet duquel, il est dit que si même un ange en annonçait un autre, il serait anathème. Mais voici que ceux qui étaient descendus en Galatie avaient troublé, oui, avaient même ensorcelé le peuple et auraient perverti le pur évangile que les Galates avaient d'abord entendu et reçu par le Saint-Esprit. Ces perturbateurs des chrétiens galates étaient des pharisiens qui y avaient cru. Rappelez-vous qu'ils étaient des pharisiens qui y avaient cru. Ils étaient venus du milieu des pharisiens dans l'église de Christ. Ils prétendaient croire en Jésus. Ils prétendaient avoir reçu l'évangile. Ils prétendaient être chrétiens. Mais ils avaient été pharisiens avant. Et ils l'étaient encore après avoir fait profession de foi. Ils étaient des formalistes avant, quand ils n'étaient que des pharisiens. Et maintenant qu'ils étaient devenus des pharisiens qui avaient cru, ils n'étaient encore que des formalistes. Même leur croyance n'était qu'une forme. Et ceci était opposé à l'évangile. En effet, c'était une chose si aride qu'ils ne pouvaient être satisfaits avant d'avoir suivi Paul partout où il allait et d'avoir détourné les gens de l'évangile qu'il prêchait, qui était si aride. En pervertissant l'évangile de Christ, il présentait un autre évangile, une autre voie de salut. C'est pourquoi la parole dit, de point, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Il continue. « Un autre évangile. » Qu'est-ce que l'évangile? C'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Car en lui, la justice de Dieu est révélée. Il vient de citer Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Qu'est-ce que l'évangile? C'est, guillemets, la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, ferme les guillemets, il ouvre les guillemets encore, car en lui, la justice de Dieu est révélée. Ce que je souhaite vous faire comprendre maintenant, ce n'est pas tant que l'évangile est la puissance de Dieu, mais pourquoi c'est la puissance de Dieu? Pourquoi l'évangile est-il la puissance de Dieu pour le salut? Notez bien, l'esprit de prophétie nous disait que le monde périt faute du pur évangile. Il y a une famine dans le pays à cause du manque du pur évangile. Et donc, il pose la question, parce que Romains chapitre 1, verset 16 à 17 nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Et maintenant, il dit, pourquoi l'évangile est-il la puissance de Dieu pour le salut? Pourquoi? La raison est donnée dans Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Dans le 16e verset, il est écrit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. La raison en est donnée au 17e verset, et cette raison est qu'en lui, en l'évangile, la justice de Dieu est révélée. En d'autres termes, la puissance de l'évangile réside dans la justice de Dieu révélée dans l'évangile. La puissance qui vient au pécheur par l'évangile, à savoir cette puissance qui change sa vie, qui met en lui la nouvelle voie et le maintient dans cette voie, cette puissance lui vient dans la justice de Dieu. Et l'évangile est la puissance de Dieu parce que la justice de Dieu qui y est révélée transmet la puissance. La puissance de Dieu dans l'évangile réside donc dans la justice de Dieu révélée dans l'évangile, et cette justice n'est révélée qu'à la foi et de foi en foi. Eh bien, voici que ces pharisiens qui avaient cru viennent prêcher un autre évangile. Ceux qui professaient le véritable évangile sont déconcertés et se détournent vers cet autre évangile. Un autre quoi ? Un autre évangile. Une autre voie du salut. Une autre puissance pour le salut. Notez bien. Et cette autre puissance pour le salut doit découler d'une sorte de justice, quelle que soit la puissance qu'elle puisse avoir. Mais quelle autre puissance que la puissance de Dieu peut bien opérer le salut? Nulle autre que la mienne. En ce qui concerne mon salut, il n'y a que Dieu et moi. Et en cela, Dieu est en rapport avec moi et je dois être en rapport avec Dieu, tout comme s'il n'y avait personne d'autre que Dieu et moi dans l'univers. Le véritable évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Un autre évangile serait une autre puissance pour le salut. Et ce ne pourrait être que ma propre puissance, la puissance du moi. Vous comprenez ici quel était cet autre évangile qui était présenté aux Galates, par quoi nous recevons une leçon? C'était l'évangile qui est opéré pour le salut, mais qui est opéré par ma propre puissance. Et il continue. De plus, puisque le véritable évangile tire sa puissance de la justice de Dieu qui y est révélée, un autre évangile doit tirer sa puissance, quelle qu'elle soit, d'une sorte de justice. Il ne peut pas tirer sa puissance de la justice de Dieu parce que c'est un autre évangile. Et étant un autre évangile, il doit tirer sa puissance d'une autre justice. Et de même qu'il n'y a pas d'autre puissance que la mienne, de même il n'y a pas d'autre justice que la mienne. Par conséquent, la seule justice qui pourrait être révélée dans cet autre évangile serait la propre justice. Mais la propre justice est un péché. Quiconque a la propre justice est sous la malédiction. Par conséquent, un autre évangile n'est en fait pas un autre, parce que ce n'est pas du tout un évangile. Ce n'est pas du tout un évangile parce que ce n'est pas du tout une puissance. C'est une impuissance totale et c'est simplement le chemin de la perdition. Telle était la question qui se posait aux Galates, à savoir si le véritable évangile était celui qui révélait la justice de Dieu ou celui qui révélait la propre justice. C'est cette question qui est à l'origine de l'épître aux Galates. Le livre des Galates a été écrit spécialement pour montrer l'idée complètement fausse, la destruction totale pour tous ceux qui pourraient la recevoir, de tout ce qui prétend être l'évangile et qui ne révèle pas la justice de Dieu qui est par la foi. Je ne sais pas si vous avez reçu un peu, compris, saisi le lien qu'il y a entre ce que je viens de lire par rapport à cette définition profonde de l'évangile et la famine des derniers jours d'entendre la parole de Dieu. La famine, comme nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 4, verset 1, vient de ce que les hommes veulent manger leur propre pain, revêtir leurs propres vêtements, tout en portant le nom de Christ pour qu'ils puissent faire cesser leur opprobre, c'est-à-dire leur honte. Et les vêtements ici qui sont présentés, c'est leur, ils disent, nous nous vêtirons de nos vêtements, à savoir de notre propre justice. Parce que il est écrit que je crois que c'est aussi dans Ésaïe, que nos justices sont comme un vêtement souillé. Donc les vêtements sont un symbole de la justice de l'homme. Mais nos vêtements sont comme, notre justice, pardon, sont comme un vêtement souillé. Mais ces personnes-là qui veulent se réclamer du nom de Christ et qui caractérisent la grande majorité du monde croyant et chrétien dans les derniers jours, selon les paroles de 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, ces personnes-là désirent se revêtir de leurs propres vêtements et manger leur propre pain. Et cela, et donc c'est pour cela qu'il y a une soif du pur évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, parce que dedans, dans cet évangile, la justice de Dieu y est révélée, quoi? De foi en foi. Et selon le frère Adet Jones, cette justice de Dieu-là n'est révélée que à la foi. Et ce n'est pas la propre justice, mais c'est la justice de Dieu qui est révélée dans cet évangile. Alors que la justice de ceux qui ne veulent pas sacrifier leur propre moi sur l'autel du sacrifice, en consécration, en dévotion, en étude de la prière, ce n'est autre que la propre justice. Et c'est un autre évangile, et c'est pour cela que le monde crève de faim, pour ainsi dire. Vous comprenez? Donc c'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions prendre à cœur ces avertissements de la parole de Dieu et être encouragés à étudier la parole. D'ailleurs, j'aimerais bien lire cette déclaration qui se trouve dans l'esprit de prophétie ici, que j'avais un peu sauté, avec quoi j'aimerais pouvoir conclure, si je la trouve, dans Christian Education, à la page 57, paragraphe 1, il est écrit ceci. Jésus a dit des Écritures de l'Ancien Testament, et combien plus est-ce vrai des Écritures du Nouveau, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le Rédempteur, celui en qui se concentrent nos espoirs de la vie éternelle. Oui, toute la Bible parle de Christ, depuis le premier récit de la création, car rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, jusqu'à la promesse finale, voici je viens bientôt. Nous lisons au sujet de ses œuvres et nous écoutons sa voix. Si vous voulez connaître le Sauveur, étudiez les saintes Écritures. Remplissez tout votre cœur des paroles de Dieu. Elles sont l'eau vive qui étanche votre soif ardente. Elles sont le pain vivant venu du ciel. Jésus déclare, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et il s'explique en disant, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Notre corps se compose de ce que nous mangeons et buvons. Et comme dans la vie naturelle, de même dans la vie spirituelle, c'est ce sur quoi nous méditons qui donnera du tonus et de la force à notre nature spirituelle. J'aimerais lire la déclaration suivante, encore une fois, dans Christian Education, à la page 58 et au paragraphe 2. Plutôt paragraphe 1. Nous ne devrions nous fier au témoignage d'aucun homme pour savoir ce qu'enseignent les Écritures, mais étudier nous-mêmes la parole de Dieu. Si nous permettons à d'autres de réfléchir à notre place, nous aurons des énergies paralysées et des capacités réduites. Les nobles facultés de l'esprit peuvent être tellement atrophiées par le manque d'exercice sur des thèmes dignes de leur concentration qu'elles perdent leur capacité à saisir le sens profond de la parole de Dieu, l'esprit s'élargira s'il est employé à retracer les sujets de la Bible, à comparer un passage avec un autre et les choses spirituelles avec des choses spirituelles. Il n'y a rien de mieux pour fortifier l'intellect que l'étude des Écritures. Aucun autre livre n'est aussi efficace pour élever les pensées et donner de la vigueur aux facultés que les vérités larges et ennoblissantes de la Bible. Si la parole de Dieu était étudiée comme elle devrait l'être, les hommes auraient une largesse d'esprit, une noblesse de caractère et une constance dans leurs desseins que l'on rencontre rarement de nos jours. Je vous laisse la suite, je ne vais pas la lire, elle est aussi édifiante, mais puissions-nous prendre de ces déclarations-là l'inspiration, c'est de cela dont nous avons besoin, pour venir à la parole de Dieu et ne pas nous laisser paralyser par cet esprit laodicéen qui croit avoir tout reçu, tout appris et qui croit tout connaître. C'est vraiment notre grand danger. C'est ça qui provoque une si grande famine. Puissions-nous, frères et sœurs, ne pas simplement nous fier à ce qu'enseignent les autres, quand bien même ce soit vrai, mais étudier nous-mêmes la parole de Dieu, ne pas laisser nos énergies devenir paralysées et nos capacités réduites, mais permettre à nos facultés de l'esprit d'être exercées sur les thèmes dignes de notre concentration dans la parole de Dieu pour que cela augmente notre capacité à saisir leur sens profond. Parce que nous avons cette assurance que notre esprit s'élargira s'il est employé à retracer les sujets de la Bible. À quoi ? À comparer un passage avec un autre et les choses spirituelles avec des choses spirituelles. C'est ma prière et j'espère fort tout mon cœur que nous puissions prendre à cœur cet appel et cette exhortation à nous nourrir de la parole, à étudier la parole afin de ne pas souffrir de cette cruelle famine et de ne pas continuer à souffrir de cette cruelle famine dans laquelle le monde se plonge de plus en plus. Puisse Dieu nous aider et Dieu nous rappeler par son esprit la valeur intime, spirituelle et nourrissante de sa parole. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse dans ce sens et nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.